SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Michaela Rong, bienvenue sur SBS French.
Merci.
Voilà, vous êtes en Australie en marge des commémorations des 30 ans du génocide au Rwanda, commémorations qui se sont déroulées à travers plusieurs villes en Australie. Et vous avez participé à ces commémorations. Nous allons y revenir, mais nous allons surtout parler de votre dernier livre, Assassins sans frontières, un livre sur le Rwanda et qui retrace les événements au Rwanda avant, pendant et après le génocide.
Oui.
Comment a été votre voyage en Australie?
C'est un peu fatigant parce que c'est assez loin, comme vous savez. Mais c'est bien d'être ici, c'est ma première visite. J'ai jamais visité...
L'Australie.
Une première expérience.
Vous êtes autrice de plusieurs ouvrages sur l'Afrique. Vous avez écrit sur la RDC, l'ancien Zaïre, le Kenya, le Rwanda, l'Érythrée. En plus de vos travaux journalistiques et de vos séjours sur plus de 30 ans, je crois, dans la région des Grands Lacs et en Afrique.
Oui, c'est ça. J'ai commencé ma carrière comme journaliste pour l'agence Reuters. J'ai bossé en France et aussi en Italie. Et après, à un certain moment, j'ai commencé à travailler en Afrique. J'étais placée en Côte d'Ivoire. Et après, j'étais au Zaïre, à Kinshasa. Et j'ai changé un peu d'employeur. Alors, je suis devenue la correspondante sur l'Afrique pour le Financial Times. Et à un certain moment, je voulais approfondir mes recherches. Et j'ai commencé à écrire et faire des enquêtes sur des sujets africains. Et maintenant, c'est 5 livres que j'ai publiés, comme vous avez dit.
5 ouvrages et justement votre dernier Assassins sans frontières, un ouvrage sur le Rwanda, un ouvrage qui dresse plutôt un bilan accablant pour le pouvoir du président Paul Kagame, un bilan qui va plutôt dans le sens contraire de ce qui se dit majoritairement dans la presse, que ce soit la presse écrite, la télévision, parce que Kagame, c'est le héros africain.
Je ne suis pas totalement d'accord parce qu'il y a eu beaucoup de critiques à l'égard du FPR. Ouais. Il y a eu beaucoup de recherches et par exemple, moi, j'ai lu plein de livres par René Le Marchand qui met dans un contexte la carrière du FPR et aussi Gérard Prunier et surtout le professeur Philippe Renchens en Belgique. Alors déjà, on a eu des recherches, des enquêtes profondes et plein de nuances, je pense. Et avant que mon livre ait été publié, il y avait aussi le livre de Judy Reaver, un journaliste canadien, et elle est très, très critique à l'égard du FPR. Alors, je pense que je fais partie de toute une série
de publications et d'auteurs qui ont vu une autre image. Parce que si vous parlez à n'importe quel Africain dans la rue ou même des journalistes ici en Australie qui ne suivent pas spécialement l'Afrique, Kagame, c'est le héros, c'est l'homme qui est vraiment qui a libéré le Rwanda, qui a arrêté le génocide, qui a transformé le pays en Singapour de l'Afrique ou même en Suisse de l'Afrique.
Oui, mais ce sont des clichés. Ce sont surtout des clichés, un portrait qui a encouragé et qui a été peint par le gouvernement à Kigali. Et je pense on a un peu tendance, tout le monde a un peu tendance d'être paresseux intellectuellement et d'accepter ces clichés. Et moi, comme journaliste, je voulais regarder un peu plus près et aller un peu plus profond.
Cet ouvrage commence avec l'assassinat d'un ami de Kagame, un assassinat spectaculaire en Afrique du Sud. Parlez-nous de cet assassinat et du début de votre livre « Assassins sans frontières ».
Oui, c'est l'assassinat de Patrick Karegeya, qui était l'ancien chef à l'extérieur, chef d'intelligence, des renseignements de Paul Kagame. Et les deux hommes se connaissaient depuis des décennies. Ils sont même allés au même école, en Ouganda. Et c'était un des proches qui avait vraiment l'oreille de Paul Kagame. Et c'est un monsieur qui connaissait beaucoup de journalistes. Moi, je l'ai rencontré ou je ne sais pas, peut-être deux fois quand il était toujours en place à Kigali. Et après, bon, il a eu des problèmes avec Kagame. Il s'est enfui, on lui a menacé et il s'est enfui en Sud-Afrique où il a fondé une partie d'opposition. Et à un certain moment, oui, c'était la nouvelle année 2014. Il avait un ami, Apollo, qui passait à Johannesburg. Il est allé voir son ami et il s'est fait piéger dans une chambre d'hôtel et on l'a étranglé. Et moi, je trouvais que c'était tellement choquant et c'était tellement bon, rocambolesque, si on peut dire. Tout le monde était tellement choqué par cela. Et je trouvais que c'était une histoire importante que je voulais raconter parce que, oui, j'avais rencontré ce monsieur, mais c'était aussi le fait que c'était vraiment un des... il faisait partie de cette élite Tutsi, très proche de Kagame. C'était pas une histoire Hutu-Tutsi, comme on dit toujours, « Oh oui, c'est une histoire entre les Tutsi et les Hutu ». C'était un des plus proches. Il avait fait partie, pas seulement du FPR, mais aussi du NRM en Ouganda. Et je pensais que ce qui est intervenu montrait quelque chose de très important sur cette administration et ce régime et sur le mandat de Paul Kagame.
Vous avez cité le NRM. Le NRM, c'est l'acronyme de National Resistance Movement, qui était le nom de la rébellion ougandaise sous Museveni, qui par après a changé de nom pour devenir la UPDF, Ugandan People's Defense Forces, tout comme l'armée du FPR pendant la rébellion s'appelait APR, Armée Patriotique Rwandaise, qui est devenue plus tard le RDF, quand le FPR a pris le pouvoir, donc RDF pour Rwandan Defense Forces. Revenons à l'assassinat de Paul Karegeya. C'est quelqu'un que vous avez connu pendant ces années de gloire à Kigali, parce que c'était le chef de renseignement du FPR.
Oui, c'est un homme énormément important. On disait que c'était le monsieur qui connaissait tous les secrets, qui connaissait tout sur Kagame. Alors le fait qu'il s'est fait assassiner par son propre ami, les deux familles étaient très proches. Hein. Comme j'ai dit, ils se connaissaient comme enfants. Ils étaient des jeunes rebelles ensemble en Ouganda. Les femmes se connaissaient, les enfants jouaient ensemble. Alors le fait qu'on a pu l'assassiner de cette manière, ça montre quelque chose. Et ce qu'on voit, c'est pas le seul homme qui a été ciblé de cette façon, qu'il y a eu plein d'assassinats. Et c'est un aspect du régime et de Paul Kagame qu'on a tendance parmi les Occidentaux, surtout, on veut pas trop penser à cela. Tous les faits sont publics, mais on pense jamais à ça. Et on présente toujours Kagame comme le monsieur qui a arrêté les tueries et que c'est un président très moderne. Et on oublie que effectivement, c'est un monsieur qui est en train d'éliminer les gens qui s'opposent à lui, même quand ce sont des anciens amis, des proches.
Il n'y a pas que lui, il y avait aussi l'ancien ministre Seth Sendashonga qui lui a été assassiné au Kenya.
Ouais.
Et des poursuites contre les opposants sont, en fait, on en parle souvent régulièrement, même en Australie, on parle souvent dans la presse de la présence d'agents du FPR. Et je crois qu'à une certaine époque, même en Grande-Bretagne, il y a eu une annonce, en fait, faite par la Metropolitan Police aux opposants rwandais de faire attention parce qu'il y avait des agents qui seraient là pour les...
Oui.
Chassé.
Il y a eu quatre membres de l'opposition rwandais qui, à un certain moment, en 2010, je pense, ils ont été avertis par les policiers anglais qu'on les menaçait, qu'ils étaient en danger. Et c'était leur propre gouvernement qui était le danger. Il fallait prendre des mesures de protection, d'autoprotection. Et effectivement, c'est toujours un aspect dont on parle jamais en Occident. Et il faut dire que quand même, on connaît bien les faits. Human Rights Watch, l'organisation des droits humains, et ils ont publié un rapport après l'autre. Freedom House, c'est un groupe aux États-Unis, ils ont fait la même chose. Et malgré tout cela, comme vous voyez, chez moi, mon gouvernement, il parle jamais de cet aspect du régime à Kigali. Jamais.
Il y a une certaine contradiction, comme en témoigne votre livre. D'un côté, un pouvoir qui poursuit ses opposants sans relâche jusqu'à les menacer à l'étranger, même dans les pays occidentaux. Donc on parle de menaces qui ont été proférées même en Grande-Bretagne. Mais comment expliquer cet aspect plutôt musclé du pouvoir à Kigali et des très bonnes relations dont il jouit avec la plupart des pays occidentaux et surtout avec la Grande-Bretagne?
Bon, il faut dire qu'on a des intérêts et on voit ça avec le gouvernement britannique, on voit ça aussi avec le gouvernement français et aussi avant, beaucoup moins maintenant, avec le gouvernement aux États-Unis. Ils ont des intérêts et des raisons pour soutenir et aider le gouvernement, le régime de Kagame. Mais aussi, je pense qu'il y a toujours eu une autre carte que Kagame sait bien jouer, il le joue tout le temps. Dès qu'on commence à critiquer ce monsieur, dès qu'on commence à lui dire « Écoutez, qu'est-ce que vous faites avec la presse, avec les élections, avec les partis d'opposition ?» Il joue la carte de la culpabilité pour le génocide. Et il dit « Mais vous avez la communauté internationale, vous nous avez abandonnés. » Qu'on en était en train de se faire massacrer, mon peuple se faisait massacrer par les Inter-Khamwe et l'armée de Juvenal Habyarimana, et vous n'avez rien fait, et maintenant comment osez-vous me critiquer? Et c'est une carte qui joue toujours, et c'est très efficace, ça marche toujours.
Donc c'est une forme d'instrumentalisation du génocide, un génocide sur lequel il y a beaucoup d'arguments. Sur les chiffres, parce que sur les chiffres, on parle entre 500 000 à 1 million, 2 millions selon les sources. Ce génocide qui a commencé au Rwanda a des tentacules dans les pays voisins, surtout dans le Congo, où des poursuites contre les Interahamwe et même les réfugiés Hutu se poursuivent jusqu'à aujourd'hui, avec notamment le conflit armé du M23 et les milices dans l'est du Congo.
Oui, effectivement, on présente Kagame comme le monsieur qui a arrêté la violence, mais ce qu'on voit dans les Grands Lacs, c'est qu'il y a toujours la violence. Et effectivement, à ce moment, il y a un mouvement rebelle, le mouvement 23, qui est soutenu, équipé, armé par Kigali, par le Rwanda et par Paul Kagame, qui est en train de détruire les villages, de créer une énorme population de déplacés. Les rebelles sont en train de violer les femmes. Il y a plein d'atrocités et c'est une force qui est soutenue et par Paul Kagame. Alors, je trouve qu'il y a toujours cette contradiction qu'on présente ce monsieur, ce dirigeant comme l'homme de la paix, mais on sait très bien, si on est Congolais, on sait très bien qu'effectivement, c'est lui qui sème la violence dans les Kivus, dans l'est du Congo.
Et cette violence a coûté, selon les sources, plus de victimes même que des victimes au Rwanda. Et même les populations congolaises, on parle de jusqu'à 5 millions de morts.
Moi, je dois dire, je n'entre pas trop dans les chiffres parce que je trouve que ça commence à être un type de surenchère d'atrocité. Déjà, il y a tout un débat sur combien de personnes ont été tuées pendant le génocide au Rwanda dans les 94. Et maintenant, il y a un type de surenchère sur les morts au Congo. J'ai entendu les Congolais souvent, maintenant ils parlent de 10 millions de personnes, 12 millions de personnes, et je trouve que ça aide pas, parce qu'à un certain moment, si on parle de ces chiffres énormes, ça n'a pas de sens, hein, et ça a moins d'impact, parce que déjà un mort, c'est trop. Vraiment, moi, je réussis pas à imaginer ou à donner une substance à ces chiffres.
Oui, ce sont des chiffres à contester, mais la réalité sur le terrain, comme en témoigne votre ouvrage et les travaux des nombreux chercheurs et écrivains, chercheurs comme René Lemarchand et le professeur Philippe Rentiens, que vous avez cité, la réalité sur le terrain est non moins sanglante et violente. Et on doit souligner que, d'ailleurs, l'année dernière, prix Nobel attribué au professeur Mukwege a été donc attribué en reconnaissance pour son action pour sauver les femmes victimes des atrocités des différentes milices qui rôdent à l'est du Congo, de la RDC. Mais pour revenir sur l'histoire de la région, l'explication donnée par le Rwanda pour justifier son implication à l'est du Congo, c'est la poursuite des génocidaires. Mais il doit quand même y avoir d'autres explications, tout simplement. Comment expliquer que le Rwanda, un tout petit pays, ait pu avoir une telle puissance au point de pouvoir déstabiliser ou même renverser le pouvoir au Zaïre, un pays plus de 80 fois plus grand?
Oui, mais il faut se rendre compte que l'ampleur d'un pays, l'ampleur géographique, c'est pas la chose plus importante. Un des éléments plus importants, c'est l'efficacité d'une armée. Et moi, j'ai habité à Kinshasa pendant les dernières années de Mobutu, et c'est un monsieur qui jouait la carte divide and rule, et jouait cette carte dans son propre armée. Alors, il y avait tous les généraux qui étaient en rivalité les uns contre les autres. Les soldats n'étaient jamais payés. Il y avait une demoralisation complète dans toutes les forces de sécurité. Et c'était exprès parce que Mobutu voulait se protéger d'un coup d'État. Alors, à un certain moment, après le génocide, c'est l'AFDL, cet groupe rebelle qui a été vraiment fondé et établi par Kigali, par le Rwanda, par Paul Kagame. Ils sont entrés, ils sont foncés dans le Congo et c'était très facile parce que au niveau de sécurité, les forces de l'armée, il y avait un manque complet de solidarité.
Hein. Oui. Non, c'est quand même toujours spectaculaire de voir un tout petit pays comme le Rwanda pouvoir projeter ses troupes à plus de 2000 km de ses frontières. Donc, nécessairement, il devait y avoir des soutiens. Et on a parlé tout à l'heure des relations ambiguës entre le Rwanda et la Grande-Bretagne. Il y a aussi des relations entre Paris et Kigali. Quelle est votre réflexion sur les rapports entre Paris et Kigali?
Moi, je trouve le comportement et la position de la France très bizarre à l'égard du Rwanda. C'est évident qu'il... Ils se font une autocritique au niveau de ce qu'ils ont fait pendant le régime de Habyarimana, le soutien qu'ils ont donné à ce président avant le génocide et aussi après, parce que Opération Turquoise, on a aidé à fuir beaucoup de dirigeants qui avaient des sangs sur les mains. Mais il ne faut pas commettre la même erreur. Et je pense que les politiciens français, et surtout les intellectuels français, et c'est souvent les gens de gauche, ils ont honte de ce que François Mitterrand a fait en Afrique. Et ils ne sont pas fiers de toute cette histoire de colonialisme en Afrique. Et ils essayent, alors ils se disent, OK, on doit faire des excuses. On a beaucoup de culpabilité. On a joué un rôle néfaste. Et ils tombent dans l'erreur de soutenir encore un autre dictateur. Alors ils se culpabilisent parce qu'ils ont soutenu un homme fort, un dictateur, Juvenal Habyarimana. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est que Macron fait exactement la même chose avec un autre homme fort, un autre dictateur qui joue un rôle très, très néfaste et négatif dans toute la région des Grands Lacs. Et il faut dire, c'est pas seulement un niveau philosophique ou intellectuel. Il y a aussi, comme j'ai dit avant, il y a des intérêts. Alors la France veut utiliser les soldats rwandais qui sont bien connus pour être efficaces et disciplinés, et ils se sont mis d'accord pour que ces peacekeepers rwandais, ils ont été envoyés à Cabo Delgado, au Mozambique, où il y a une installation très importante totale de gaz liquéfié. Et avec cet accord entre Kagame et Macron, maintenant c'est la paix est revenue et cette installation a été protégée. Alors ça c'est le côté cynique. On le présente comme la France qui est en train d'avoir tout un compte rendu de son passé et admettre c'est faux. Mais effectivement, il y a aussi un côté très cynique.
Il n'y a pas qu'au Mozambique. Je me souviens que les troupes rwandaises sont intervenues aussi en Centrafrique, côté de la France, parce que lorsque la France est intervenue pour rétablir l'ordre et la sécurité suite aux troubles et à la guerre civile qui ravageait le pays, eh bien la France a demandé de l'aide de la communauté internationale. Et qu'est-ce qu'on a vu? Des troupes rwandaises à Bangui, je crois que la MINUSMA qui était au Mali. Je crois qu'à un moment, à la tête de la MINUSMA, il y avait aussi un général rwandais très haut placé, donc très haut placé dans une opération, pas seulement française, mais une opération onusienne.
Et on sait qu'il y a eu on a eu des contacts avec le Bénin aussi, et qu'il y a beaucoup de visites et que les dirigeants dans le Sahel font à Kigali et des discussions, c'est pas ce qu'on discute, mais on sait que je pense que la France regarde vers le Kigali et Kagame pour assurer la sécurité dans le Sahel parce qu'on craint là-bas qu'il y a vraiment un problème avec le djihadisme et l'étendue du djihadisme dans le Sahel. Et je pense que Paris regarde un peu envers Kagame pour résoudre ce problème.
Donc, un tout petit pays, mais avec une armée très puissante et très spécialisée dans des interventions loin de ses frontières. Je me souviens en 2010 quand il y a eu le Mapping Report, quand il y a eu des accusations de violence, des crimes contre les droits de l'homme les plus abominables, qui pourraient même être qualifiés de génocide, c'était même pas le Rwanda qui se défendait, c'était des experts internationaux à l'époque qui disaient si on accuse le Rwanda et on traîne le Rwanda en justice, ils vont retirer leurs troupes, parce que le Rwanda était l'un des 10 plus grands contributeurs des troupes dans le maintien de la paix.
Oui. Et c'est ça que Kagame, il est très doué, ils seront très utiles toujours aux pays, aux gouvernements occidentaux. Et il devient incontournable parce qu'on a besoin de lui. Et je trouve qu'il est très malin, il sait bien comment se présenter dans cette position.
Je sais que j'ai réussi à vous contacter à la dernière minute et vous êtes ici dans une visite, comme on dit en anglais, whirlwind tour. Et avant de vous laisser partir à votre prochain entretien, votre prochaine interview, je vous ouvre le micro parce qu'on a bien couvert bien des aspects de votre ouvrage Assassins sans frontières, mais on n'a pas eu beaucoup l'opportunité de parler de votre visite. Est-ce que vous auriez un mot de plus à ajouter par rapport à quelque chose d'important, par rapport à votre livre qu'on n'aurait pas couvert, ou est-ce que vous pouvez nous dire un mot ou deux sur votre visite en Australie?
Ma visite ici, je me rends compte comment les expériences des diasporas africaines sont difficiles. Hein? Et ça, je le sais chez moi, en Angleterre. J'ai vu ça en France. J'ai vu ça en Belgique aussi, aux États-Unis. Mais maintenant que je suis ici en Australie, je comprends que ici il y a le même problème parce que oui, on peut aller ailleurs, on peut demander l'asile politique, on peut être accepté dans un pays. Et malgré tout cela, le gouvernement rwandais Ils ciblent les gens, ils les ciblent sur social media, ils les accusent et ils accusent les gens comme moi qui osent critiquer Kagame, mais aussi ils sont en train de cibler et accuser les gens qui sont en exil. Et à un certain moment, on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai parce que tout le monde est traité de genocide denier. Et c'est une accusation complètement automatique maintenant. Si vous critiquez le gouvernement de Kagame, on vous accuse d'être genocide denier. Et moi, c'est quelque chose, une accusation on a fait contre moi. Et je dis toujours, mais je suis une journaliste qui a fait des reportages sur le génocide en 94. J'étais là, j'ai vu les corps, j'ai écrit mes articles. Ils sont tous là, on peut les relire si on veut. Et quand même, on me traite de genocide denier. Et c'est pas sérieux, ça. C'est une accusation complètement automatique. Et les gens qui connaissent pas bien le dossier, ils risquent de le prendre au sérieux. Mais à un certain moment, je pense, le gouvernement à Kigali, ils ont tellement abusé ce terme que vraiment, il faut les dire, non, vous pouvez pas continuer à utiliser ce type de langage. Il faut, c'est pas une accusation à utiliser de cette façon. C'est une insulte aux gens qui ont survécu le génocide. C'est une insulte d'utiliser cette accusation de cette manière.
Donc, une instrumentalisation du génocide, et ça permet de rebondir sur cela dont on avait déjà parlé dans notre conversation, mais couplé, il faut le dire, avec une très très bonne campagne de relations publiques, ça marche très très bien, surtout à l'étranger, ça porte des fruits. Par exemple, c'est le pays qui est connu pour avoir le plus grand nombre de parlementaires femmes au monde, présence féminine, vraiment les chiffres sont très très beaux, mais qu'est-ce qui s'est passé quand on a présenté des femmes pour s'opposer à Kagame? Il y a Victoire Ingabire qui a fait 8 ans de prison. Il y a Diane Rigara qui a fait de la prison. Et quelle est la force de ces femmes? Peuvent-elles vraiment avoir une politique? Ont-elles un mot au Rwanda?
Mais je pense que c'est des gestes qu'on fait parce qu'on sait que ça plaît aux Occidentaux. Je trouve que c'est une analyse très naïve parce que il faut se poser la question combien de pouvoir est-ce que ces femmes ont vraiment ces parlementaires. Il y a un système à Kigali où des hommes forts, le chef des renseignements à l'extérieur, le chef de l'armée, l'ancien secrétaire général du FPR, l'ancien procureur général. Kagame, à un certain moment, avait peur de ces hommes et ils sont passés en tôle. Ils se sont enfuis, ils ont été assassinés. C'était des hommes. Et maintenant, on pense que des parlementaires femmes vont jouer un rôle important dans l'avenir du Rwanda. Mais c'est vraiment naïf, on n'est pas bête quand même. On voit bien ce qui se passe quand on devient un challenger à Kagame. Et c'est pas ces femmes qui vont faire une différence dans le système rwandais.
Oui. Et finalement, où peut-on se procurer ce livre « Assassins sans frontières » ?
Je pense qu'il faut aller sur Amazon et le commander comme cela. Ça va prendre un petit peu de temps, mais à la fin, ça arrive.
C'est très bien écrit, très bien documenté. C'est un travail plus académique même que journalistique, entre l'académique et le journalistique.
J'espère très, très que c'est entre les deux.
Entre les deux, oui. Non, il est très, très bien écrit. Je le recommande vivement à nos auditeurs. Bien, Michaela Arong, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous rendre visite dans nos studios de SBS French en ces temps très chargés pour vous. En tout cas, c'est un très grand honneur de vous avoir.
Merci pour cette invitation.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes.
Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.